Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs.
Hey, you talking to me?
Vers l'infini et au-delà!
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifilm.fr, le site qui parle de films, séries, jeux et livres et qui vous invite à partager vos coups de cœur avec la communauté. Dans ce numéro, on va vous parler cette fois de livres, après avoir traité les univers de films et de séries. Et puis, je vais commencer tout de suite par te lancer, Chenin, sur ta sélection pour ce numéro. Qu'est-ce que tu veux nous présenter comme livre cette fois ?
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de deux petits livres. Enfin non, d'un gros livre. Donc le premier livre dont je voulais parler s'appelle « Les aventures de Charlotte Holmes ». Ce n'est pas une BD, parce qu'il y a une BD qui a un nom très similaire, qui parle aussi de Charlotte Holmes. Et ce n'est pas le livre dont j'avais déjà parlé un jour dans un autre podcast, dans une autre vie, qui parlait de Sherlock Holmes et Cthulhu, et le mythe de Cthulhu. Là, alors, c'est un peu mon créneau, tout ce qui est autour de Sherlock Holmes. D'ailleurs, je suis en train de lire l'intégrale de Sherlock Holmes. Et ce qui est aussi mon créneau, c'est les livres pour adolescents, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est un livre pour ados. Mmh. Alors, c'est écrit par Brittany Cavallaro. C'est un livre anglais. C'est pas très vieux, ça date de 2016. Et alors, dans le genre livre pour adolescents, c'est pas non plus très jeune. Hein. C'est-à-dire qu'on donne pas ça à lire à un enfant de 12 ans. Quoi. Moi, je dirais plutôt 16. Parce que, au final, c'est quand même parfois un petit peu cru. Ça parle aussi de drogue, d'alcool, de sexe. Donc,
13 ans, quoi.
Ouais, bon, on attend 13 ans et demi, quoi. 13 ans et demi, 45, 3 quarts. Bon, voilà. Bon, qu'est-ce que je peux encore vous dire ? Bon, vous avez compris, ça parle plus ou moins de manière déguisée de Sherlock Holmes. En fait, Charlotte Holmes, c'est une descendante, à notre époque, de Sherlock Holmes. Donc, ils font comme si Sherlock Holmes avait vraiment existé, avec son confrère Watson. Et Sherlock Holmes, donc tous les descendants de Sherlock Holmes sont très attendus au tournant parce que c'est tous des génies. Elle est ado, elle est jeune, elle va à l'université, elle est introvertie, évidemment. Et puis, elle fait la rencontre du descendant de Watson, qui, c'est assez amusant, est secrètement amoureux d'elle.
Comme par hasard.
Ils n'ont pas pris de risque,
les mecs. Le fantasme inavoué de toute une génération de voir Sherlock Holmes et Dr. Watson ensemble.
Oui, il y a des débats sur le sujet. Hein.
Ah. Oui. A priori, non, s'il a eu des descendants, c'est que...
Oui, mais ça, c'est un livre, mais avant ce livre.
Bon, alors, en tout cas, c'est un chouette livre, ça se lit très bien. C'est genre lecture de vacances, je dirais. Mais vraiment, c'est pas non plus Kleenex, quoi, c'est pas nul, on a envie de lire la suite. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé.
Dans l'univers young adult, ça.
Oui, c'est un peu ça. Voilà, et en fait il y a de l'humour, il y a de l'action, on l'imaginerait bien adapté au cinéma, hein, ce genre de choses. Hein. C'est vraiment, vraiment plaisant.
Et est-ce qu'on retrouve vraiment ce truc de l'enquête à la Sherlock Holmes?
Oui, quoi, oui, ça, alors j'oublie de le dire, mais c'est pas, il n'y a pas que l'humour, il y a aussi le côté enquête. On a aussi des allusions à Moriarty, oui, aux descendants de Moriarty.
Évidemment.
Et ce qui est un peu surprenant, en fait, c'est le truc qui m'a déstabilisé, je ne m'attendais pas à ça, c'est en fait, on s'attend à plus de génie de Sherlock Holmes. Et en fait, souvent, elle est presque décevante, elle laisse les autres un peu... faire le travail, notamment Watson, qui est le narrateur, en fait.
Du coup, est-ce que d'accord, c'est décevant?
C'est pas décevant, mais je pense qu'ils essayent... Enfin, l'écrivain, l'écrivaine, en faisant ce premier tome, parce qu'il y a déjà 3 tomes, elle essaye aussi de planter le décor en disant bah, « Elle a que 15 ans, elle est peut-être un petit génie, parce qu'elle est très très forte en chimie, en maths, etc. » Mais face à l'action, face au danger, elle peut avoir peur. Elle n'est pas surpuissante, c'est pas une super-héros. Et il y a des scènes où, par exemple, il y a une explosion à un moment dans l'école. L'école est rasée, et puis elle survit à ça, mais bon, elle est terrorisée, quoi.
Et c'est la fin du livre.
Ok.
Ah, voilà, j'ai
un peu de mal en ce moment avec sorte de surexploitation du filon
oui.
Sherlock Holmes qui a partout, notamment dans le monde du jeu de société, mais...
Ouais,
mais j'ai l'impression que
de façon assez décevante d'ailleurs.
Ça sort de tous les côtés, tu dis, ils putain, vont... les gars, a changé quoi.
Il y a un film qui va sortir avec Will Ferrell d'ailleurs dans pas longtemps, une comédie forcément avec voilà, ça a l'air.
Alors comment on parle rapidement des bouquins.
Attends, tu dis tu verrais bien le truc en film.
Ouais.
Tu penserais à un personnage pour jouer Charlotte Holmes.
Charlotte Holmes. Je vais y réfléchir. Ellen Page.
Ah ouais, mais du coup ok.
Ouais.
Non, mais intéressant.
Comme on a parlé.
Oui, et puis tu es responsable. Ok.
Deuxième recommandation.
Deuxième recours. Alors,
les gars, ils cassent les règles. Quoi.
Ouais, je casse les règles parce que je parle de deux livres. Mais
cet épisode, c'est n'importe quoi.
Bon, on fait vite. Là, je vais faire très vite. Je vais juste vous dire que ça, c'est un super bouquin. Ça s'appelle Les enfants, pourquoi faire. C'est très drôle. J'ai trouvé ça vraiment très drôle. Et alors, c'est marrant. On le lit, on l'ouvre. L'illustration, c'est Lewis Trondheim.
Attends, pour le lire, tu l'ouvres.
Oui, tu le lis, tu le dévores, c'est drôle.
Ah, non, recommandation random.
Voilà, c'est ça. Alors pourquoi déjà je l'ai choisi ? Bon, bah alors ceux qui sont là, je vous le montre. Moi je l'ai choisi pour le trait et pour le coloriage, on va dire, un peu vulgairement. Parce que j'ai déjà dit à ce micro, je suis hyper fan, par exemple, de Pratt et de Prune qui font de l'aquarelle notamment et ce genre de choses. Et je retrouvais vaguement un petit peu ça. Donc ça me tentait bien. Donc une BD que j'ai vraiment, je connais pas les auteurs. Hein, je vous donne les noms: Zidrou et Laurent Bonneau. Donc voilà, j'ai jamais entendu parler. Je ne peux pas vous dire qu'ils ont fait d'autres. Mais voilà, un trait sympa, une mise en couleur qui varie pas mal d'une page à l'autre selon les moments de l'histoire, selon l'ambiance. Donc là, je vais vous montrer une double page qui est assez teintée bleu gris, et alors que la page suivante est assez chaleureuse, on va dire. Alors ça correspond à l'ambiance du moment et tout, mais c'est ce qui me tentait dans le choix de cette BD là. Donc voilà, qu'est-ce que j'en ai pensé. Alors déjà, ça, comment ça s'appelle, parce que je ne l'ai pas dit, ça s'appelle Les Brûlures. C'est une enquête policière, on va dire, dans le milieu d'une piscine municipale. Alors l'enquête n'est pas liée à la piscine municipale, c'est plutôt le point où les personnages reviennent en fait. Donc voilà. Alors globalement, qu'est-ce que j'en ai pensé. Alors en fait, sur le trait et sur la mise en couleur qui sont ce qui m'a fait la choisir en rayon, aucune déception. J'ai trouvé ça vraiment sympa et intéressant. Donc, je trouvais ça beau, généralement.
Très, très classique dans le découpage.
Oui, il n'y a pas de... Bon, t'as quelques trucs hein, quand même, un peu... Là, je montre une grande page très sombre, très noire. Donc, c'est pas toujours très classique. Tu vois, il y a de la double page. Justement, je montre une double page... qui représente un paysage, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans Pratt et dans Prune éventuellement. Donc je retrouve ces codes-là.
C'est très matiéré, quoi. Il y a beaucoup c'est de l'aquarelle a priori, ou en tout cas
un truc assez proche.
On sent beaucoup le dessin derrière, le trait.
Ouais, on sent que c'est dessiné, puis coloré, puis il y a une mise en couleur, évidemment, qui se veut. Je sais pas si c'est de l'aquarelle, mais assez proche. Donc voilà, à ce niveau-là, moi je retrouve un truc qui me plaît bien. Après, globalement, ça pêche un peu au niveau du scénario. C'est l'enquête policière est légère. Je pense que la BD est plus un prétexte justement au dessin et à la mise en couleur que à l'enquête policière elle-même, qui est franchement pas très très creusée, quoi. C'est un one shot. On est sur un one shot de 120 pages. Il faut vraiment être fan des graphismes et tout pour se dire je vais l'acheter, je vais la conserver.
Faut vraiment, ouais, parce que moi de là où je suis,
à l'envers,
oh la vache, ça a l'air d'un ennui mortel, quoi.
C'est un petit peu, ce serait un peu thriller psychologique, si tu veux. C'est fait sur la découverte des côtés un peu du passé trouble des personnages, et tu vois, au début tu comprends pas bien, et puis petit à petit les personnages se découvrent et ça dévoile un peu leur passé, etc. Le fond est plus là que sur l'enquête, mais effectivement...
Moi, j'ai l'impression que c'est un exercice de style de corps, quoi. Le mec, il dessine le corps dans toutes ses positions, sous tous les angles de vue, à toutes les pages.
Oui, c'est assez naturaliste, entre guillemets, quoi. Les personnages sont très réalistes, même s'ils sont assez matérés.
Et les postures, et les trucs, tout, et tu vois, les mains, t'as l'impression que c'est un exercice de style de A à Z.
T'as un dessin qui est... Tu vois,
tu peux rappeler le titre ?
Brûlures.
C'est un mec des beaux-arts qui a fait ça.
Tu vas avoir une case où c'est vraiment de l'aquarelle, et après t'as vraiment un dessin au trait. Donc effectivement, on est plus dans l'exercice de style graphique que je considérerais réussi que dans une BD que vous allez relire 20 fois. Donc si vous êtes fan du dessin, du trait, ça vaut le coup, ça peut valoir être découvert. Après, est-ce que ça vient enrichir une BD tech d'un élément indispensable? Je suis pas très convaincu, quoi. On découvre. Ce serait intéressant, je pense. J'essaierai de voir si ces auteurs-là ont fait autre chose, voir s'ils restent aussi dans ce style de dessin, etc. Parce que finalement, ça m'a plu. Mais sur quelque chose de peut-être un peu plus profond.
Ils ont l'air d'être frères d'ailleurs, puisqu'ils ont un seul nom de famille pour deux prénoms.
Il y en a un qui a un pseudo, je pense. Il y en a un qui a un pseudo, quoi. Okay. Donc voilà. Bon, découverte au hasard, de bonnes choses, et puis. Voilà. Peut-être j'essaierai de me renseigner pour une prochaine fois, voir s'ils ont fait d'autres choses, peut-être aussi un peu plus conséquentes, parce que pour un one shot comme ça, de toute façon, 120 pages, tu sais que ça va pas être hyper approfondi, quoi.
Mmh. Ok, une petite découverte du coup, en mode un petit peu aléatoire, mais en même temps, il y a tellement de choses à voir que ça peut être aussi intéressant d'essayer de piocher
ça parfois. C'était un peu l'idée, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise.
C'est vrai. Docteur Mad Geek, on va changer un peu d'univers pour être un peu plus dans la littérature, je crois.
Ouais, moi je vais vous parler d'un truc qu'il faut absolument avoir dans sa livrothèque. C'est le discours.
Bibliothèque
de Fab Caro. Ouais, mais moi je suis pas les.
Livrothèque, c'est disrupté.
Les anglicismes, j'aime pas trop. Fab Caro, donc c'est Fabrice Caro. Un Montpelliérain, jusque-là pas très connu, et puis il y a quelques temps il a sorti la BD Zai 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 Zai, qui est un vrai bijou, un ovni complet.
Rien à voir avec une meuf qui va siffler sur la colline.
Rien à voir. Par contre, ça a à voir, nous dans notre coin, certains ont pu le voir adapté en pièce de théâtre au TNB. Là.
Ah ouais, ok.
Et alors, juste pour vous dire dans quel univers ce mec peut vous amener. Zai, c'est l'histoire d'un type qui arrive à la supérette. Ah bah, il a fait ses courses, il est à la supérette, il passe à la caisse et là, la nana lui dit: vous avez votre carte de fidélité? Le mec dit: ah bah non, je l'ai oublié dans mon autre manteau, quoi. Et là, t'as un vigile qui arrive: bon, comment ça, vous avez pas votre carte de fidélité? La nana fait: non, il a pas sa carte de fidélité. Et puis là, les gens disent: ah, oh, il a pas sa carte de fidélité, tout ça, machin. Mais je vous dis que je l'ai laissé dans mon autre manteau, machin. Et il est obligé de s'enfuir, en fait. Et il se retrouve, mais ultra médiatisé, pour chasser. C'est l'ennemi public numéro 1, quoi. Et donc, à travers tout ce truc complètement burlesque, c'est une sorte de road trip, road movie complètement burlesque, il y a aussi un peu cette dénonciation de cette société de consommation complètement
absurde,
qui trouve des choses tellement graves alors qu'il se passe des trucs ailleurs. Donc bref, là, il nous emmène avec le discours. J'ai adoré.
Tu peux redire le nom de l'auteur, s'il te
plaît ? Fab Caro, c'est son pseudo. D'accord. Et donc, le livre commence comme ça. Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. Parce que donc sa sœur va se marier et lui campe un personnage qui lui ressemble finalement à un mec qui approche la quarantaine, un peu loser, et sa nana vient de le quitter. Elle l'a quitté il y a exactement 26 ou 36 jours, un truc comme ça. Et 36 jours. Et là derrière moi, il lui a envoyé un texto, mais genre la boulette, quoi. Le truc, il va pas arrêter de se torturer l'esprit pendant un repas de famille, à savoir mais putain, mais pourquoi elle répond pas, mais pourquoi elle répond pas, et puis pourquoi j'ai écrit ça comme un con, il faut que je réécrive autre chose, mais en mode, attends, puis il se pose plein de questions comme nous on se les poserait, à se dire attends, si j'écris ça, elle va penser que j'ai trop envie qu'elle me répond, non, il faut que je fasse le mec un peu détaché, mais quand même, ah non, je sais ce que je vais faire, je vais lui envoyer un texto, mais comme si je voulais l'envoyer à un autre pote, et ensuite je vais lui dire que non, et en fait, tout du long, t'es entraîné dans ce truc de non, mais c'est trop ça, quoi. Et voilà, une petite critique de la bienséance, des repas de famille, des trucs pourris. Il y a des anecdotes absolument succulentes. À un moment, des choses qu'il pense, mais qu'il n'arrive pas à dire. Et ça te remet toujours dans cette situation de dire « Il y a des gens, je voudrais leur dire des trucs, mais je ne le fais pas. » Et là, il part sur un exemple de sa sœur qui, un jour, lui ne savait pas trop quoi lui offrir. Tu vois, elle lui a offert une encyclopédie. Et donc, une encyclopédie, mais tu sais, genre sur les crustacés, du truc, machin. Le mec, il n'avait rien à foutre. Bon, bah, voilà, on t'offre un truc, bon, bah, là, tu le prends, et puis, bon, bah, il l'a mis dans sa bibliothèque, voilà, parce que, bon, bah, c'est là où tu mets un livre, quoi. Et donc, du coup, la fois d'après, sa sœur, elle était arrivée chez lui, ah, il y a ton livre dans ta bibliothèque, donc elle s'est dit, il aime bien ça. Et donc, à l'anniversaire d'après, elle lui a racheté une encyclopédie. Et là, il a pas voulu lui dire que, bon, il s'en foutait un peu, et ce sont des trucs complètement ridicules, quoi. Et donc, la fois d'après, il était obligé de mettre l'autre bouquin dans la bibliothèque pour que, quand elle revienne, elle voulait pas qu'elle dise, bah, tiens, t'as pas mis mon livre cette fois? Et au final, tout ça s'entraîne et tu te retrouves avec une collection entière d'encyclopédies dont t'as rien à foutre. Et en plus, les gens, ensuite, quand ils viennent chez toi, ils voient le truc. Ben donc, ben, tout le monde se met à t'offrir des encyclopédies et donc tu rentres dans une connerie comme ça. Et donc, pendant tout ce repas-là, il va se poser cette question avec son téléphone dans sa poche. Putain, est-ce que je peux aller aux toilettes pour regarder le téléphone? C'est excellent, quoi. C'est vraiment excellent. Ce mec-là, il t'entraîne dans tous les sens. Il est, Donc il fait de la BD, il est auteur, compositeur, il est chanteur.
Fab Caro.
Parce que là, t'es donc sur un format poche de combien de pages?
Ouais, il n'y a pas beaucoup de pages, ça se lit très facilement. Moi, je l'ai lu sur Kindle. Donc, je l'ai lu, je sais pas, en quelques heures, quoi. Ça se lit très très vite, hein. C'est pas un grand roman.
Petit coup de cœur.
Mais t'as trop envie de savoir, parce que sa nana sort avec un mec, enfin elle traîne avec un gars en tout cas, et donc il est en train de penser à tout. Mais franchement, toi, tu vas adorer, je pense. Donc,
Et tu lui mets?
Je l'ai pas noté là encore. Franchement, je lui mets un bon. C'est tellement un. Tu le lis au bon moment, c'est-à-dire que c'est pas un truc où tous les soirs tu vas t'installer pour lire ta petite page.
La note.
C'est. Moi, je lui mettrais bien un bon gros 8 sur 10.
Là, j'étais là, j'étais en train de me dire, il va lui mettre un 8.
Mais ouais, Zai, on le voit souvent mis en avant, effectivement.
Ouais. Bah ouais, il est devenu, là, ça l'a fait exploser. Le mec, il a dit, j'ai écouté une interview de lui récemment, il disait, bah d'habitude, je vends entre 2 et 4 000 de mes prods, quoi. Et là, depuis Zai, les trucs ont explosé, quoi. Il est beaucoup plus sollicité, il fait 15 000 fois plus de festivals. Mmh. Donc voilà.
C'est une BD.
Zai, c'est une sorte de BD, mais c'est très déstructuré. C'est presque roman graphique aussi, mais c'est quand même de la BD, c'est classé dans les BD. Quoi.
À découvrir aussi, quoi. Deux bouquins de Fab Caro à découvrir.
Ah, c'est sûr, c'est tellement. Zai, je l'ai là, il faut absolument l'avoir. Tellement c'est différent, quoi. Et au début, tu lis le truc, tu fais non, mais ça fonctionne pas, quoi. Ça fonctionne pas. Tu dis c'est pas possible. Et en fait, page après page, tu rentres dans le truc, mais c'est tellement génial.
C'est assez agréable quand tu as apprécié l'œuvre de quelqu'un et que tu testes ce qu'il a fait d'autre parce que tu es un peu attaché et que ça marche aussi. Enfin, ça fait vraiment un champ des possibles qui s'ouvre. Je ne sais pas s'il a une grosse production, je ne sais pas si le discours c'est quelque chose qu'il a fait avant ou après.
Le discours, je pense que c'est après. Mm. Et il s'essaye à plein de trucs. Encore une fois, il écrit, il est auteur-compositeur, machin. Donc, et il dit, quand les gens lui ont dit il faut faire une suite à Zai, il a dit non, quoi. Il a dit non, ça m'intéresse pas. Moi, quand j'ai fait un truc, il veut passer à autre chose, quoi. Il veut essayer d'autres trucs. Et donc, ce côté expérimentateur est aussi évidemment intéressant, quoi. Et moi, en feuilletant un peu tout ce qu'on disait de lui et tout ça, il y a aussi plein de gens qui disaient ouais, si t'as lu ça, faut lire ça absolument de lui, c'est encore meilleur. Moi, j'ai du mal à voir comment tu es meilleur que Zai. Franchement, tellement dans ce style-là, dans cet exercice-là, c'est au top, quoi. Okay. Mais là, on parlait du discours, donc voilà.
Le discours, effectivement, de Fab Caro, trouvable à peu près partout, j'imagine.
Oh, complètement.
Dans les bonnes crèmeries, comme on dit. Moi, je vais repasser pour terminer à l'univers de la bande dessinée avec Negaloid. De Vincent Perriot, qui est un auteur qui est assez prolifique, mais pas très connu. Je pense qu'un de ses trucs les plus connus qu'il a dû faire avant, ça s'appelle Belleville Story, en 2010, qui est une série de BD où on suit un peu l'univers mafieux de Belleville, de Paris, ce truc un peu de gangster parisien. Donc là, du coup, il nous revient, c'est sorti en septembre 2018, Negaloid. La couverture parle d'elle-même quasiment. En gros, on est sur une couverture découpée en deux couleurs principales, du bleu en haut qui représente une espèce de ville tentaculaire, à la fois futuriste et en même temps très à l'ancienne, et puis en bas un paysage de désert rouge, et au milieu un personnage qui est monté sur un dinosaure. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'était pour moi, tous les ingrédients étaient là. Je vais faire, comme on dit, entre guillemets, du wiki knowledge, juste pour le petit extrait, pour le pitch, parce que je pense que ça résume très très bien, je pourrais pas le faire mieux. Donc Jari Cheplad est un berger du désert de Taïa. Il parle aux dinosaures et maîtrise l'art des cordes. Quand un camion, un générateur d'orage, anéantit son troupeau, Jari décide de partir en ville pour la première fois afin de se venger. Voilà. Tout est dit. On est dans un univers où peu de choses sont expliquées. Pourquoi on est dans cet univers qui semble à la fois post-apo, en même temps steampunk, en même temps il y a des dinosaures. Pourquoi on ne sait pas, mais en tout cas ils sont ressortis de. Non mais on est sur un univers aussi un petit peu comme le récent film Battle Angel ou enfin Game avec une ville basse. On est sur une planète qui pourrait être la nôtre. Après, est-ce qu'on est sur Terre? J'ai pas tout à fait terminé. Il me reste quelques pages. Voilà. Peut-être qu'on aura un twist final à la fin qui révélera les choses. mais comme ça je spoilerai pas. Mais on a ce truc de une ville en haut avec les nantis et puis une ville en bas dans les crevasses de la terre où l'eau se ferait très rare en, avec du coup des gens qui triment, etc. Moi je trouve que non, on n'est pas du tout dans du steampunk. On n'est pas du tout dans du pardon du cyberpunk ou on est
non,
vraiment
sur, Waterworld quoi.
Ouais, on est plutôt sur du Mad Max, effectivement, ouais. Du Waterworld, du Mad Max, de ce truc un peu cradin, punk un peu. Moi, ça me fait beaucoup penser, même s'il n'y a aucune créature mécanique, à du alors pour les gens qui auraient joué à ce jeu vidéo, voilà, Horizon Zero Dawn. Donc un peu un truc qui serait comme une sorte de
nouveau vieux
Moyen Âge. Post-apo, technologique, mais en même temps où les gens sont revenus à un truc très de commerce, de troc, de nomadisme, de berger, de trucs comme ça. Mais pourtant, il y a de la technologie, il y a des vaisseaux spatiaux, il y a, enfin des vaisseaux, pas spatiaux, mais des vaisseaux. Il y a de la technologie, il y a des camions qui semblent très réalistes, enfin, très terriens, quoi.
Accès aussi. Hein.
Mais ouais, enfin voilà, il y a ces grands déserts, etc. Donc. L'univers n'est pas original, mais tu sens qu'encore une fois, ça fait partie de ces auteurs qui ont vraiment digéré leurs influences et qui nous sortent une sorte de truc qui se tient bien, mais qui fait référence à plein de choses. Il y a gavé de références à Moebius, clairement, dedans. Mmh. T'as des personnages qui ont vraiment un style à la Moebius. Et donc. Exactement. Tout à fait. À tout ce truc un peu de l'ASF, un peu pulp, qu'on aime bien. Et ça, le mélange fonctionne assez bien. Moi, ça m'a fait un petit peu penser aussi à John Carter of Mars, qui est le titre du film, mais qui est adapté de nouvelles d'Edgar Rice Burroughs, qui est du coup un truc assez vieux, qui était pareil dans un truc à la fois fantasy. Mais en même temps avec de la
un peu Conan quoi, un peu
ouais, enfin il y a vraiment ce truc de presque du Star Wars aussi, quand on est dans un truc avec
la fantasy space opéra quoi.
Ouais voilà, ouais. Fantasy, des chevaliers, des épées, des machins, des trucs, mais avec des vaisseaux et de la technologie quoi. Je trouve que ce mélange là finalement au cinéma et en série on
observe
assez peu quoi. Ouais, un peu métal hurlant. On est très soit SF, soit très post-apo, et je trouve que ce genre d'univers-là, on pourrait le porter à l'écran de manière un peu plus rigoureuse, ce serait cool.
Ouais.
Et ce qui est cool aussi, c'est du coup le dessin. On est dans un. En fait, à la base, quand on aborde le truc, on pense un peu à du franco-belge classique, du genre un peu du 13 ou du Torgal, et puis en fait, quand on regarde vraiment dans le détail et dans les pages, tout d'un coup, on se dit ah non, en fait, on dirait carrément plus du Sfar. Il y a une espèce de.
Carrément Sfar.
Ouais, il y a une espèce de comment dire de
un peu Fred aussi.
Alors je ne connais pas Fred.
Philémon.
Ok ouais. Mais c'est dans beaucoup dans vachement de traits, dans quelque chose d'assez organique dans la manière de traiter les personnages et tout ça. Et en même temps des fois il y a vraiment un côté assez réaliste entre guillemets dans les proportions etc etc. Mmh. Donc encore une fois on est comme dans d'autres BD que j'ai pu proposer pour le podcast un mélange où tu sens quelqu'un qui a digéré ses influences et qui et à la fois dans quelque chose de très français en même temps qui a un background culturel derrière. Les couleurs sont clairement hyper cool. C'est le seul truc qu'il a pas fait, Vincent Perriot. Il a fait le scénario et les dessins, mais il a pas fait les couleurs. Et on comprend pourquoi, parce que vraiment il y a une intention dans la couleur derrière et qui a dû demander un travail à part entière. C'est un one shot, donc c'est toujours sympa, c'est à dire que du coup ça s'offre très bien, et pour quelqu'un qui consomme pas forcément beaucoup de BD, ça permet de lire l'histoire, ça se regarde, ça se lit comme un film.
En même temps, c'est sympa.
Et voilà, un peu comme Petit à l'époque, y a pas mal de pages, donc c'est assez cool. Ça me fait un peu penser dans le délire à un truc qui s'appelle Shangri-La, qui n'a rien à voir, mais aussi que je recommande dans le côté one shot, un peu barré dans un univers aussi assez sympa. Je lui mettrai, je pense, la note de 8 sur 10 parce que c'est un de mes petits coups de cœur du moment.
C'est épais, c'est une belle grosse BD.
Ouais, encore une fois, c'est un beau bouquin, et j'aime beaucoup ce genre là de dessin. À la Christophe Blain aussi un peu, encore une fois à la Sfar, on est dans quelque chose de très détaillé, mais là où Sfar, je trouve, dans ces dernières années, s'en fout de plus en plus du formalisme de ses dessins, c'est-à-dire que vraiment c'est des choses à imaginer presque maintenant, les dessins de Sfar. Pourquoi pas. Là on est quand même dans quelque chose qui est extrêmement détaillé quoi. On a des panoramas de la ville avec plein de détails, les personnages ils ont des costumes ultra détaillés,
même sur la couve, sur les plans du désert, au niveau du sol.
À un moment donné, le personnage le personnage principal, enfin voilà, il y a des scènes de cavalcade avec plein de personnes, de personnes à cheval ou à de dinosaures. Enfin, le mec les a vraiment tous représentés. Je veux dire, il n'y a pas de fainéantise dans le dessin de se dire, enfin, quelques petits raccourcis quoi.
T'imagines un écrivain qui fait ça. Il écrit un bouquin, mais il écrit pas toutes les phrases.
C'est ça.
T'imagines le truc.
Ou genre, une des doubles pages qui m'avait bluffé, c'est à un moment donné, le personnage principal met une sorte de casque sur sa tête et ça lui permet d'avoir accès à une sorte de base de données quoi. Et pour représenter ça, le mec se dit, bah, je vais faire des dizaines et des dizaines de personnages. Des sortes de photos de profil entre guillemets différents auxquels il a accès, et le mec a clairement fait deux doubles pages quasiment de petits portraits de personnages tous différents, tous avec leur petit style graphique, enfin leur petit costume, leur casque, leur
très, très
univers. Il y en a qui sont plutôt mongols, d'autres qui sont plutôt genre japonais, aztèques, enfin il y a plein d'influences. Encore une fois, ça témoigne d'une vraie générosité dans le dessin. Le gars, il s'est pas fait chier à faire une liste sur un écran, quoi. Non, le gars, il nous a montré ce que le personnage principal voyait. Donc voilà, c'est hyper généreux, c'est hyper sympa. Et,
ouais, mais ça fait envie.
Ouais, c'est généreux. Ce sera le mot de
ça.
Négaloïde, généreux.
Comme BD, toutes les BD généreuses. Guillaume, à chaque fois qu'il présente une BD derrière, on a tous envie de la lire de toute façon.
Bah, en tout cas,
alors que moi, non, là, j'ai pas fait ça. Ok.
Merci.
Et puis voilà, c'est tout pour moi. Et puis du coup, c'est tout pour cet épisode spécial livre.
Et rendez-vous la semaine prochaine pour les jeux de société.
Exactement.
Et merci, salut.
Ciao. Salut.